Bonjour à toutes et à tous. Je propose de commencer cette première journée de conférence avec, pour commencer, un débat entre nos deux partenaires qui vont discuter de l'intérêt d'utiliser ou non les patients simulés dans le cadre de la simulation. Je vous propose peut-être de commencer par...
Vous m'entendez si je parle sans micro ? Alors. Donc l'idée c'est qu'il y ait 20 minutes de présentation, les pour, les contre, et puis surtout on se réjouit beaucoup de l'échange avec vous tous et de vos questions. Et tout au long de la matinée, on va vraiment essayer de laisser de l'espace aussi pour vos questions afin que ça puisse répondre à vos besoins. Bienvenue à toutes et à tous.
On va faire un test ici. Le micro marche. Oui. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Anne Bello. Je suis médecin en néonatologie ici au CHU de Caen. Je fais de la simulation depuis un petit moment et j'ai la chance depuis 2 ans maintenant d'être présidente du comité scientifique et pédagogique de notre centre. Et puis plus récemment, depuis l'année dernière, d'être membre du comité international de l'ASPI, qui est l'association des éducateurs de patients standardisés, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc quand on fait de la simulation, je pense qu'on a tous une représentation de ce que ça peut être, quel que soit, vos centres d'intérêt, que vous soyez un sportif, un cinéphile ou finalement un gamer, vous avez tous, quand on parle de simulation, on en a tous une représentation. Alors là, aujourd'hui, ici, on a une représentation plus précise, hein, c'est la simulation en santé. Mais là encore, je pense qu'on en a tous une représentation en fonction de là où on vient. Que ce soit le monde du procédural, moi c'est par là que j'ai commencé hein, en tant que néonatologiste, quand on veut intuber un enfant de 500 grammes, on est content de pouvoir s'entraîner avant. La simulation haute fidélité qui nous apporte beaucoup et par laquelle nous on est passé. Et puis cet outil qui maintenant me paraît totalement indispensable qui est le patient simulé. Alors très rapidement je reprendrai la définition et je ne ferai pas plus d'historique puisque Karine Laya-Burns s'en refera un petit peu plus tout à l'heure. Juste une première diapositive pour qu'on soit tous d'accord sur la définition. Un patient simulé ou standardisé, c'est une personne qui est formée et entraînée à simuler les signes cliniques, la personnalité, mais aussi le langage corporel et les réactions émotionnelles d'un vrai patient, si bien qu'un médecin expérimenté ne puisse pas le démasquer. Le premier à avoir utilisé cet outil, c'est Howard Barrows, donc en 1963, ça date un petit peu, qui était neurologue et qui avait élaboré un cas clinique de CEP avec une grille d'évaluation qu'il faisait remplir par ses patients simulés, avec deux objectifs finalement, l'utilisation dans l'enseignement et dans l'évaluation. Alors, je passe. Alors, rapidement aussi, on entend souvent patient simulé, patient standardisé. Finalement, quand on cherche, il y a des terminologies qui sont plus utilisées dans certaines publications que dans d'autres, parfois en fonction des pays, peut-être au sens qu'on met dans ce qu'on veut faire exactement. Dans le patient simulé, souvent, c'est quand on entend un peu plus l'intérêt formatif et on donne peut-être plus de souplesse à son patient pour faire plus d'authenticité. La standardisation, elle apparaît beaucoup dans les endroits où on les utilise de façon standardisée, éventuellement dans les examens. Au final, la seule chose qui compte, quelle que soit la terminologie qu'on utilise, c'est d'utiliser quelqu'un qu'on va former et bien entraîner. Alors, quels intérêts ça peut avoir finalement de travailler avec des patients simulés ? Bon, alors, tout simplement, pourquoi ? Pourquoi on pourrait avoir envie de les utiliser ? Mais si on regarde finalement en formation initiale, quand on regarde l'augmentation du numerus clausus sur les 15 dernières années, qu'on voit des chiffres comme plus 86%, ben, on se rend bien compte que finalement, avec beaucoup plus d'étudiants, déjà, ils vont être plus à devoir être formés. Ensuite, c'est vrai que, alors, moi, j'ai connu l'ère de, il n'y avait pas de repos de sécurité. C'est vrai que c'était extrêmement difficile et jamais on reviendra là-dessus. Mais on était plus souvent là, tout simplement, du temps au contact du malade. Il y a aussi du temps de formation obligatoire qui est apparu dans les cursus. Et ça, c'est essentiel, on est tous d'accord. Cela dit, quand on est en formation ailleurs, on n'est pas forcément au lit du malade. Donc finalement, le temps de compagnonnage qu'on avait, par lequel nous, on a pu apprendre à une certaine époque, il est réduit. On a plus d'étudiants, me semble-t-il, ou alors si le nombre de médecins a franchement augmenté, je n'ai pas forcément vu, mais il me semble qu'on a de plus en plus d'étudiants, et puis on a aussi peut-être une attention particulière portée à la confidentialité qui fait qu'on ne fait plus tellement entrer 15 étudiants quand on veut aller annoncer quelque chose auprès d'un patient, ce qui est là encore probablement une très bonne chose. Donc le comportement au lit du malade qu'on transmettait par compagnonnage, finalement, on le fait moins. Alors, qu'est-ce que ça permet de travailler avec un patient simulé ? Ben, probablement d'abord, travailler en sécurité. On parle beaucoup, on dit beaucoup en simulation, jamais la première fois sur le patient. C'est une réalité, on est bien d'accord. Mais ça ne se limite pas à une ponction lombaire ou une ponction veineuse. Le respect de l'intimité du patient, dans son examen physique tout simplement, la première fois qu'on palpe un abdomen, la première fois qu'on ausculte un patient, eh ben, on peut aussi imaginer le faire avant, sur un patient simulé, pour arriver prêt auprès de son patient. De la même manière, au niveau émotionnel, ne pas faire sa première annonce sur un vrai patient, là encore, c'est probablement les respecter, là aussi. Il y a aussi la sécurité émotionnelle des apprenants, hein, à laquelle il faut penser. Nos étudiants, ils sont quand même très fragiles, eux aussi, hein, on l'a vu, on l'a montré, les troubles anxieux chez les étudiants en médecine, ça existe. Et on peut peut-être leur éviter certains stress supplémentaires. Par exemple, si on veut leur apprendre à travailler avec les émotions des patients, on peut imaginer le faire en simulation. Là, on pourra contrôler ou doser les émotions pour éviter que la première fois qu'il se retrouve face à quelqu'un en colère, c'est quelqu'un dont il pense qu'il veut lui mettre le poing dans la figure. Puis il y a une notion d'éthique aussi. On dit toujours d'abord ne pas nuire. Et je pense que nos étudiants, ils en sont convaincus. Mais quand on va faire son premier examen physique, quand on va faire son premier toucher pelvien à une dame et qu'on ne l'a jamais fait avant, on se le demande, je pense. Est-ce que vraiment je ne vais pas lui nuire à cette dame ? D'accord ? Alors là, il y a des solutions qui ont été trouvées. Il y a des patients simulés qui existent, qui s'appellent les GTA, qui sont Gynecological Teacher Associates, qui sont donc des enseignements d'attachés gynécologiques. Et dans une étude de Siway, ils ont fait une étude où ils ont essayé de comparer les étudiants qui avaient pu d'abord pratiquer avec des patients standardisés qui se prêtent à l'examen volontairement, et puis des vraies patientes. Qu'est-ce qu'ils ont montré ? C'est que la première chose, c'est que même en termes de coaching par leur père, par le gynécologue qui était présent les deux fois, ils avaient l'impression d'être mieux coachés quand ils étaient auprès d'un patient standardisé. Peut-être qu'on leur donne plus de retours si on n'est pas auprès d'une vraie patiente. L'autre chose, c'est qu'évidemment, le retour de la patiente elle-même était bien plus important avec un patient standardisé. Bah oui, la vraie patiente, elle n'est pas là pour dire à l'interne si c'est bien ou pas ce qu'il fait. Et puis, même en termes de compétences cliniques, ils ont montré qu'en fait, les compétences cliniques acquises étaient supérieures, c'est-à-dire que plus de fois, ils étaient capables de palper l'utérus, et puis même les ovaires, là au moins, ils y arrivaient de temps en temps, alors que les autres n'y arrivaient pas du tout. Puis on va encore plus loin dans cette étude, ils montrent aussi que les étudiants qui avaient eu la chance de faire cette formation, quand ils sont arrivés en stage derrière, ils ont plus osé y aller, ils ont plus examiné de patientes, et au final, en termes de compétences cliniques acquises à la toute fin, ils étaient bien meilleurs que les autres. Alors, d'autres possibilités avec les patients standardisés, peut-être d'un autre type, hein, c'est l'apprentissage expérientiel. Il y a des situations qui sont extrêmement difficiles, on le sait, comme par exemple le prélèvement médical d'organes. C'est une situation qui est compliquée à tout titre, parce qu'on a envie de bien faire. Évidemment, c'est une situation émotionnelle extrêmement difficile, mais aussi on a envie d'obtenir un résultat, bien sûr, hein, il s'agit quand même d'obtenir les organes. Ces situations, elles ont été travaillées par certains en simulation et ont montré une grande efficacité, notamment l'équipe de Gail Gliva-McConvey. On peut aussi éventuellement vouloir faire découvrir aux apprenants d'autres aspects de la pratique médicale. Il y a des choses qui sont difficiles à montrer pendant les études. Par exemple, la continuité d'une prise en charge. Donc il y a une étude là aussi de Vest. Ils ont pris des étudiants qu'ils ont mis de manière répétée face aux mêmes patients. C'est-à-dire que sur plusieurs semaines, ils ont eu des rencontres comme s'ils étaient dans un cabinet de médecine générale. Et puis, toutes les semaines, ils voyaient le même patient simulé qui était atteint d'une maladie chronique, par exemple. Et ils ont pu, comme ça, créer cette impression de continuité de prise en charge, une vraie pratique de cabinet, une vraie pratique de médecine générale. C'est une formation qui a rencontré une énorme satisfaction des étudiants qui ont dit, là, pour la première fois, on a l'impression de pouvoir vraiment voir ce que c'est d'être un médecin de famille. Ils ont eu l'impression d'avoir une vraie vue de ce que c'était que la prise en charge d'une maladie chronique, mais au long cours, c'est-à-dire plusieurs fois, de manière répétée, avec le même patient. Ils ont eu la sensation qu'il y avait une grande contribution à leur formation médicale. Et puis, quand on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous pensez que ça a amélioré, là où vous allez être meilleur ? Eh bien, en fait, en tout, ils ont trouvé qu'au niveau de l'interrogatoire, il y avait des choses qui sont difficiles habituellement, habituées à aborder les habitudes personnelles, par exemple, la consommation de tabac, d'alcool, comment on fait ? Ils se sont trouvés meilleurs là-dessus. L'examen physique, la prise en charge de certaines pathologies, comme l'hypertension, comme le diabète, des choses comme ça, ils se sont trouvés meilleurs. Et puis, le contact avec le patient. Vraiment, ils ont trouvé qu'ils avaient plus de facilité à créer un lien avec le patient et à exprimer leur empathie une fois qu'ils avaient réalisé cette formation. D'autres intérêts d'un patient simulé, c'est qu'on peut l'utiliser pour qu'il donne du feedback. Alors, les patients standardisés, on peut les former à donner du feedback à l'étudiant, à donner un retour dans la situation, et ça, ça apporte vraiment un plus aux étudiants. Il y a une étude qui montre, par exemple, le plus simple, c'est que ça diminue énormément leur anxiété, probablement parce qu'on a toujours la sensation qu'on ne fait pas bien, je crois que c'est tout le monde pareil, et puis quand quelqu'un vient vous dire « non mais vraiment, c'était bien, mais pas le prof, la personne qui l'a vécu », ça change tout. Et puis le sentiment d'efficacité personnelle, voilà, quand c'est entre guillemets le patient ou celui qui le joue qui vous dit « là c'était très bien », peut-être que celui-là on le croit plus. Il y a une autre étude qui essayait de montrer l'efficacité du feedback des patients standardisés dans l'enseignement. Et là, on peut voir qu'il y avait un groupe patients simulés, un groupe sans. Et dans le groupe patients simulés, voilà les questions qu'on leur avait posées. Quelle importance vous donnez, le feedback est-il important pour vous? Le feedback vous donne-t-il une bonne compréhension de l'impact de votre performance sur le patient? Voilà. Le feedback était non jugeant, parce que c'est toujours une inquiétude. Ah, d'accord, ils vont faire du feedback, mais s'ils les cassent, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, quand c'est bien enseigné, c'est pas jugeant. Ce qui était un petit peu moins réussi, peut-être, c'est le feedback porte sur un comportement spécifique. Alors, c'était pas forcément une critique, c'était que finalement, en fait, ils se sont adaptés un petit peu à plusieurs situations, c'était pas juste sur une chose. Le feedback renforce une attitude positive observée, claire et directe, et puis donne le point de vue du patient sur l'entretien. Alors bien sûr, c'est un patient simulé, mais ça donne une vue d'un patient, d'un certain type de patient, sur l'entretien. D'autres types de formations que ça permet de faire, par exemple, c'est les formations à l'annonce de mauvaises nouvelles. Alors ça, c'est des formations qui ont beaucoup été faites avec les patients standardisés. Les intérêts sont démontrés, il y a une grande satisfaction des étudiants. Ça leur permet de gagner beaucoup de confiance en eux et de diminuer leur anxiété. Mais sur des choses plus précises, permettent de mieux trouver les mots. On l'a tous eu, cette difficulté au début à trouver ces mots face à un patient. Et bien là, les étudiants qui en ressortent trouvent mieux leurs mots. Éviter les fausses réassurances aussi, qui sont des choses qu'on fait quand on n'est pas sûr de soi et qu'on ne sait pas quoi dire. On rassure, peut-être parfois à tort. Et puis mieux structurer sa conversation, ce qui permet peut-être d'être plus clair pour son patient. Alors, elle me dire, mais pourquoi un patient standardisé? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec un mannequin? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de discuter avec le Simman 3G, mais quand il vous parle, son expression faciale est quand même extrêmement limitée. Puis du coup, ce qu'on ressent de lui n'est pas énorme. Donc là, vraiment, le langage verbal, le langage non verbal, ça transparaît quand vous avez un patient standardisé en face de vous. Ça donne une crédibilité émotionnelle à votre patient. Et puis du coup, ça donne un grand réalisme au vécu émotionnel de la situation, quelle que soit la prestation finalement de votre patient standardisé. Donc on peut aussi travailler les émotions. Alors pourquoi on aurait envie de faire ça? Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que les émotions viennent beaucoup nous perturber quand on essaye d'annoncer. Qu'on le veuille ou non, malheureusement, elles s'imposent à nous. Et il faut apprendre à faire avec. La simulation avec des patients standardisés, ça permet peut-être d'apprendre à faire avec. Alors, je pense avoir plus de temps. Alors, d'autres choses qu'on peut faire, je vais peut-être passer juste sur la communication et les techniques de communication. C'est travailler des concepts un peu plus abstraits, comme éventuellement l'empathie. Il y a des échelles de mesure validées et une amélioration qui est vraiment notée avec ça. En évaluation maintenant, on peut aussi utiliser les patients standardisés. Ça a beaucoup été fait avec les OSCI, qui sont des examens cliniques structurés objectifs. Ça se fait depuis les années 70 et c'est utilisé par beaucoup de facs aux États-Unis et au Canada comme outil d'évaluation de leurs internes. Ça a un intérêt démontré, c'est une évaluation qui est reproductible et puis on peut là aussi donner du feedback, même cours, qui a un intérêt. Je vais passer sur ça. D'autres utilisations en évaluation, il y a une équipe qui a par exemple évalué ses médecins généralistes dans la prise en charge de l'obésité. Ou alors une autre à Maastricht qui a évalué la régulation téléphonique en utilisant des patients simulés incognito au téléphone. Avec là encore une grande efficacité et puis l'élaboration d'une grille qui a pu en découler. Voilà, il y a pas mal d'autres utilisations. Il y en a une qui est importante, c'est le passage du raisonnement clinique in situ. On peut faire tous les cas cliniques qu'on veut sur une feuille de papier. Maintenant, quand il s'agit de raisonner devant un patient, on sait tous que c'est bien plus difficile. Et puis le travail des compétences relationnelles, qu'elles soient interprofessionnelles, sous forme de formation d'annonce en équipe. Il y a même une équipe qui a travaillé le travail d'équipe chez un traumatisé avec mannequin versus patient simulé et qui n'a montré pas de différence finalement, alors que c'est un cas clinique de traumatisé, on pourrait vouloir le faire sur un Simman. Eh bien non, là finalement ils étaient tous satisfaits de la même manière avec les deux. Dernière chose, c'est le patient hybride qui vous permet de mêler finalement la technique, la non-technique, Par exemple, je pense à un accouchement, vous pouvez poser un dispositif sur une femme et la faire accoucher. Vous avez la technique de l'accouchement et la performance technique à évaluer, et puis le contact avec son patient. Alors, d'autres avantages plus techniques. La première chose, il n'y a pas besoin d'expertise technique, justement. Si vous êtes nul en informatique, comme c'est malheureusement mon cas, vous n'avez pas besoin d'être un expert en pilotage pour piloter un patient simulé. Le coût, on parle souvent du coût élevé, il existe des manières de faire moins cher, on peut utiliser des bénévoles, on peut utiliser ses pairs. Et puis, la limite qu'on pourrait dire, on peut tout simuler ou presque. J'ai été surprise d'apprendre au fur et à mesure par tout ce qu'on pouvait faire, voilà, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique, puisqu'il existe des techniques pour simuler maintenant des bruits du cœur anormaux, des pneumothorax. Et puis l'âge aussi, hein. On pense que c'est souvent une limite, mais on peut utiliser des patients standardisés, enfants ou adolescents, c'est décrit, avec une certaine sécurité autour. Et puis enfin, il existe des outils d'évaluation du patient standardisé et qui vous permettent même d'avoir un retour sur ce que vous faites et d'être sûr que votre patient, il est bon et il n'est pas défaillant, justement. Voilà. Je vais juste dernière petite diapositive et puis je passerai à la dernière. Pas de maintenance nécessaire. Si on parle, pense à un mannequin, vous n'avez pas de maintenance. Il existe, par contre, on dit et c'est décrit qu'il faut faire des entretiens psychologiques. Et puis, il y a une importance à donner au de-rolling, à la sortie du rôle pour le patient standardisé. Mais vous n'avez pas une maintenance technique annuelle à faire pour vos patients standardisés. Et qu'en est-il des risques? Alors, il y a des risques qui sont décrits, qu'ils soient psychologiques ou même physiques, immédiats ou à long terme. Mais quand on recherche un petit peu plus loin sur ces choses-là, elles ne sont jamais décrites à long terme. Ce sont des effets à court terme et de courte durée. Voilà, donc je vais conclure. Les patients standardisés, pour moi, aujourd'hui, ça me paraît être un outil indispensable, un outil pédagogique de plus qu'on peut ajouter et dont je pense qu'on ne peut pas se passer pour certains aspects de notre pratique si on veut pouvoir vraiment couvrir tous les champs dans ce qui est le « jamais la première fois sur le patient ». Merci.
Merci, je crois que tu nous as tous convaincus. On va voir si l'opératrice suivante va nous convaincre du contraire.
Bonjour, merci beaucoup. Donc effectivement, je ne suis pas tout à fait de ce même avis. Antonia Blagnier, je suis médecin anesthésiste à l'hôpital Bicêtre et je travaille également au centre de simulation de la faculté de médecine Paris-Sud. Et je vais vous démontrer un petit peu l'inverse, puisque finalement, le patient simulé, dans le cadre de la santé, il n'a pas forcément sa place. En tout cas, vraiment, il y a quand même de grosses limites. Déjà, les limites pratiques, parce qu'on vous dit c'est facile, c'est simple, etc. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on doit organiser une séance de simulation, il faut le planning des organisateurs, des formateurs, des étudiants. Et là, maintenant, se grève en plus le planning des patients simulés. Bon, alors bien sûr, on peut faire 3 doodles, 5 doodles, 6 doodles, il n'y a pas de problème. On peut essayer effectivement de vaincre cette limite. Une histoire, autre chose également, c'est qu'on vous dit c'est bien, c'est pas cher, etc. Mais en fait, je ne sais pas, Anne vous a bien dit, comme il faut qu'ils soient formés, il faut, c'est quand même des gens, il faut bien qu'ils vivent, qu'ils mangent, donc il faut leur avoir le salaire, leur horaire, le temps de préparation, les frais de déplacement, le contrat d'engagement. Il y a également des frais de formation qui doivent se surajouter, puisque comme Anne vous l'a dit, il faut qu'ils soient formés. Tout ça versus un coût unique du mannequin, qui a effectivement une maintenance, mais il y a des coûts qui sont fixes et qui peuvent être budgétés bien en amont, alors que le patient simulé, il y a énormément de choses qui se rajoutent pour avoir vraiment un pool de patients simulés bien stable. D'autres éléments pratiques, c'est justement la formation du patient simulé. Je vais passer vite parce qu'on vous y, on vous en reparlera, mais en fait, elle est indispensable, ça on est d'accord, mais elle est complexe, parce qu'il faut d'abord les former dans leur rôle de présentation, mais il faut aussi les former pour leur feedback. Or, je ne sais pas si, quand même, vous vous souvenez, le feedback, ce n'est pas anodin pour l'apprenant. Donc, comme en général, ils ne vont pas forcément faire un retour que c'était forcément très positif, le débriefing, ça s'apprend. C'est pas comme ça, avec quelques heures de formation, qu'on peut connaître et savoir comment faire un bon feedback pour un apprenant. Et un mauvais feedback peut tout détruire, toute la formation qui est autour. Un autre élément aussi, c'est qu'on vous dit c'est pratique, les patients simulés, ils peuvent aussi faire l'évaluation des apprenants. Ok, mais ça a quand même un impact direct sur l'apprenant, donc il faut être sûr quand même qu'ils savent bien évaluer les apprenants. Donc en pratique, c'est complexe, et pour être sûr qu'on les forme bien, bah, ça va être chronophage à la fois pour les patients simulés, Selon les études ou selon les équipes, il y a au moins 2-3 séances de formation, plus de 12 heures de formation. Mais ça, c'est un minimum, hein, parce que quand on voit tout ce qu'ils doivent faire, et qu'il faut qu'on soit sûr qu'ils savent bien le faire, ça demande des heures et des heures de formation. Donc du temps pour les patients, mais qui est-ce qui va les former ? Ben, c'est les formateurs. Donc du temps aussi pour le formateur. Donc il faut arriver à se dégager tout ce temps-là. Et en plus, maintenant, il y a des formateurs qui sont formés à la formation des patients simulés. Donc, c'est très bien de se professionnaliser, mais ça vous montre quand même que ce n'est pas si facile que ça d'utiliser des patients simulés. Pas très facile, parce qu'en plus, le nombre d'apprenants il peut être limité. Alors que moi, j'ai d'autres solutions à vous proposer, comme par exemple, pour de la formation de masse, soit des serious games, où les étudiants peuvent jouer de chez eux ou en groupe de 30 ou enfin de différentes manières, ou même avec des mannequins basse fidélité, avec des laboratoires pour apprendre certains gestes où il suffit d'avoir un turnover d'étudiants ou d'avoir des salles qui sont même ouvertes plusieurs heures dans la journée où les étudiants peuvent venir se former sans problème et sans difficultés organisationnelles et pratiques. Ça, on va dire, c'est juste des limites pratiques, soit. OK. Mais alors, il y a des limites aussi pédagogiques. Par exemple, la pédiatrie. Donc, Anne vous dit, oui, c'est bien, on peut faire aussi avec la pédiatrie. Bon, d'accord. Alors, ça ne va pas être facile pour tous les enfants, hein, puisque, effectivement, les adolescents, ça peut être possible si on les forme, si il y a les accords, l'accord des parents, etc. OK, soit. Mais dès que ça devient plus petit, ça pose quand même des questions, alors que j'ai potentiellement des solutions à vous proposer, comme pour des jeux sérieux où on peut mettre des petits-enfants de n'importe quel âge qui ont... Il y a des cas cliniques, ça leur permet de travailler le raisonnement clinique ou des examens cliniques à faire sur le patient. Ou aussi avec des mannequins basse fidélité. Donc là, c'est un nouveau-né en salle de naissance. Mais il y en a aussi des plus grands, etc. Et donc, on peut construire les scénarios avec des enfants qui sont des mannequins et qui permettent de faire des scénarios réalistes avec des objectifs pédagogiques précis. Donc, la pédiatrie... Effectivement, ça peut être fait avec la patient simulée, mais c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus réaliste sur d'autres, avec d'autres types d'outils. Il y a d'autres limites pédagogiques qui existent. C'est effectivement, il y a des signes qui sont difficilement simulables. Alors, effectivement, après, je ne sais pas combien d'heures de formation on peut faire le pneumothorax, le souffle cardiaque, la convulsion et la mydriase. Bon, la mydriase, je veux bien voir comment vous faites pour faire une mydriase. Mais quand ça fait partie des objectifs à valider pour l'étudiant, c'est quand même compliqué d'utiliser un patient simulé. Alors qu'il y a des solutions tellement plus simples, comme en programmant votre mannequin haute fidélité. Vous voulez une mydriase ? Pas de problème, je change l'œil. Unilatéral, bilatéral, pas de problème, je modifie. Le souffle cardiaque, vous le voulez quoi ? En aortique, systolique, mitral, comme vous voulez, je vous le change. Et puis il y a plein d'autres paramètres que vous pouvez changer sur votre mannequin. Et ça marche pour la haute fidélité, mais ça marche aussi pour la basse fidélité. Vous voulez apprendre à faire une ponction lombaire à un étudiant ? Ben, vous voulez quoi ? Un dos facile, un dos chez un obèse, un dos chez une personne âgée ? Eh ben, faut changer le rachis et l'étudiant aura différents grades de difficultés. Alors que ce patient simulé, je pense que ça peut être un petit peu plus difficile. Mais bon, ensuite, il y a un autre outil, pareil, le Serious Game. Il suffit aussi de programmer ce que vous voulez. Vous voulez un quoi ? Un réflexe vif ? Un réflexe aboli ? Bah, vous changez les différents éléments. Pareil pour le réflexe pupillaire. Donc, tous ces éléments qui sont quand même faciles et déjà intégrés automatiquement avec plein d'autres outils, alors que sur le patient simulé, c'est quand même, ça peut être très limité. D'autres éléments, ce sont ce qui tourne autour des compétences techniques et plus précisément autour des gestes techniques. Parce qu'effectivement, il y a peut-être certains patients simulés qui sont OK pour, je sais pas, moi, se laisser perfuser. Hein, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains gestes quand même qui vont être de plus en plus invasifs, comme par exemple la ponction articulaire. Bon, déjà, il faut tomber sur un patient simulé qui a aussi un peu qui a une hémarthrose ou du liquide. Et puis, il y a des gestes encore plus compliqués. Je ne suis pas sûre qu'ils vont vraiment accepter de se faire intuber comme ça. Mais peut-être, effectivement, dans votre pool de patients simulés, vous avez peut-être des patients qui sont... D'accord. Autre chose aussi, c'est en termes de réalisme. Donc vous allez me dire, bah oui, mais pour la ponction lombaire, on peut mettre un bout de plastique dans le dos et puis comme ça, bah, il apprend à ponctionner. OK, mais moi personnellement, si un étudiant doit me faire une ponction lombaire, je préfère quand même qu'il ait appris, qu'il comprenne les différents ligaments à passer, la perte de résistance, l'arrivée du LCR. Et donc ça, c'est faisable sans patient simulé, mais en utilisant un mannequin basse fidélité. D'autres éléments quand même bloquants au niveau technique, c'est que quand même, ces gestes techniques proprement dit, ça fait partie des objectifs pédagogiques, ça fait partie du curriculum des professionnels de santé, que ce soit pour les étudiants infirmiers ou dans tout le programme en médecine. Je vous donne un exemple de ma spécialité. En anesthésie-réanimation, maintenant, c'est vraiment écrire noir sur blanc que pour la première année, il faut qu'ils apprennent sur des simulateurs du drainage thoracique, des voies aériennes, de la barre vasculaire. Et tout ça, le patient simulé, il n'a pas sa place. Donc je vous passe, mais globalement toutes les études qui ont été faites pour l'amélioration, pour entre guillemets l'intérêt de la simulation pour la pose de KTV veineux centraux, pour diminuer les ponctions, le succès de la procédure, pour diminuer le taux d'infection, c'est en général sur des mannequins. Donc quand on a mis en place la formation des internes d'anesthésie cette année sur les 96 internes qui étaient inscrits en première année en anesthésie, on n'a pas pris un patient simulé, on a pris un mannequin basse fidélité. Et comme ça, ils ont pu s'entraîner et améliorer et même acquérir leurs compétences en termes de pose de cathé centraux. Il y a d'autres spécialités aussi en dehors des autres, comme autour de la chirurgie, qui est quand même un domaine assez vaste. Et en chirurgie, c'est écrit pareil, noir sur blanc, qu'il doit y avoir des exercices de simulation technique, que d'ailleurs, ça doit même être évalué par leurs responsables du centre. Et là, je vous montre un exemple, c'est de la chirurgie pour la hernie inguinale cœlio. Vous allez me dire, ça va être un petit peu compliqué de prendre un patient simulé pour apprendre ce type de technique. Alors que c'est bien prouvé que ce type de technique diminue le temps opératoire, améliore la performance et diminue les complications. Donc, c'est dommage, parce qu'on veut absolument prendre un patient simulé, ça ne va pas du tout être adapté à ce type de compétences. Donc vous voyez que là, il y a quand même une limite, à la fois la pédiatrie, les gestes techniques, dans la sémiologie, des limites également. Alors on vous dit, un intérêt, c'est quoi? C'est les compétences relationnelles, puisque c'est idéal pour faire travailler et acquérir ces compétences relationnelles, la communication, etc. Oui, mais moi je connais une compétence quand même relationnelle qui est autour de la compétence non technique, la gestion de crise. Alors je suis désolée, c'est peut-être parce que je suis en anesthésie-réanimation et donc j'ai l'impression de voir des crises partout, mais c'est quand même un élément très important puisque ça détermine le succès de la crise. Or, ce type de crise, ça peut arriver partout et pour tous les professionnels de santé. L'arrêt cardiaque dans un service de soins, parce qu'effectivement c'est rare, on n'a pas été formé à le gérer, pour le patient, c'est quand même fortement endommageable. Je vous ai pas montré le petit film parce qu'on n'avait pas le temps, mais globalement, là, c'est par exemple une césarienne code rouge, donc en urgence pour une dame qui vient pour une éclampsie, donc à convulser, il faut sortir le bébé, l'endormir rapidement, etc. Et il y a toute une communication qui va se faire. Et le patient simulé, là-dedans, il n'a pas tellement sa place. La communication, ça va être quoi? Entre le travail, ça va être un travail en équipe, une communication interprofessionnelle, entre la sage-femme, l'obstétricien, l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste, avec différentes équipes qui vont travailler ensemble et qui vont communiquer entre elles. Et là, vous pouvez mettre un patient simulé, il n'y a pas de problème. Hein. Sauf qu'il y a un moment, quand il va falloir l'intuber, l'endormir en urgence, commencer la césarienne pour faire sortir le bébé, réanimer le nouveau-né, là, le patient simulé, en fait, il ne va pas servir à grand-chose. Ça va manquer de réalisme, ça va manquer de possibilité de faire des gestes. Donc, ce n'est pas adapté. Or, tout cet apprentissage des compétences néo-techniques, elle a été également prouvée sur des mannequins haute fidélité. Donc, pourquoi se passer de ce type d'outils et pourquoi aller forcément sur du patient simulé alors qu'on peut apprendre tout ça sur d'autres types d'outils de simulation? Et enfin, quand même, donc je vous dis quand même, il y a quand même certains champs de la médecine qui sont loin d'être des petites niches, qui sont quand même très difficilement faisables avec des patients simulés. Et en tout cas, il faut trouver d'autres outils. Bon, une fois que vous voulez quand même utiliser les patients simulés, est-ce que c'est vraiment validé comme outil pédagogique? Eh bien, il faut se poser la question. Parce que quand on va faire les scénarios, il faut pour que les scénarios soient reproductibles, standardisés, on sait bien que les patients simulés, ils sont différents, c'est des êtres humains, donc on a beau leur dire il faudrait faire ça comme ça, des fois, c'est pas forcément comme on voulait. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment les former. Ensuite, est-ce que c'est validé pour le feedback? Je vous ai dit, pareil, il faut les former, mais même quand ils sont bien formés, quand on analyse un feedback réalisé par un patient simulé et un médecin, en termes de qualité, c'est quand même moins bon avec un patient simulé. En tout cas, ça a été des équipes qui ont retrouvé ça. Pareil, on vous dit, oh bah c'est bien, il n'y a plus besoin de médecins pour évaluer les apprenants. Le patient simulé, il va tout faire. Bah ok, mais en tout cas, il y a quand même un agrément faible entre l'évaluation faite par le patient simulé et le médecin. Bah alors, ce n'est pas grave si cette évaluation elle est un peu générale, mais si elle fait partie d'une formation évaluative ou sanctionnante, quand même, l'apprenant il a le droit de se demander si le patient simulé qu'il évalue vraiment bien ce qu'il a fait, parce que ça peut avoir un impact pour sa profession et pour la suite de ses études. D'autres, et là, Anne a commencé à en parler, alors je veux bien qu'elle dise qu'il y a très peu de limites sur le fait que le patient il peut avoir un retentissement psychologique de son travail de patient simulé. Mais quand même, je vous rappelle le dogme de jamais la première fois sur un patient. Mais finalement, le patient simulé, c'est quoi? C'est quand même un être humain. Donc il faut quand même un petit peu réfléchir à son bien-être. Il y a quand même des impacts émotionnels, même s'ils sont peut-être limités, mais ils ne sont pas non plus forcément très bien étudiés. Mais en tout cas, il y a quand même des effets psychologiques résiduels qui ont été retrouvés. Chez les adultes, chez les adolescents qui jouaient le rôle d'adolescents dépressifs, suicidaires, il y a quand même des réactions dépressives transitoires. Donc ça veut dire que le patient simulé, à la fin de la séance, il ne peut pas rentrer chez lui tout seul comme ça. Est-ce qu'il faut le débriefer? C'est une question, mais ça veut dire qu'il faut se former à débriefer un patient simulé après et avoir le temps de le faire. Est-ce qu'il faut lui proposer un suivi psychologique après? Je suis désolée, moi, mon mannequin, je n'ai pas besoin qu'il ait de suivi psychologique. Hein. Mais bon, pareil, il faut un turnover régulier. Donc, il faut un pool de patients simulés. Alors que quand on a un mannequin, bon, il faut en avoir plusieurs. Parce que c'est vrai que quand on commence à avoir beaucoup de séances, il faut pouvoir faire tourner des mannequins. Mais les patients simulés, il faut avoir un gros, gros pool de patients simulés pour pouvoir qu'ils n'aient pas 50 annonces de cancer en une même journée. Et que quand ils rentrent chez eux, ils ont quand même une histoire. Ils ont un vécu. Ils ont peut-être dans la famille des gens qui ont un cancer. Donc tout ça, c'est quand même à prendre en compte. C'est quand même, on parle éthique, mais éthique pour les étudiants, mais aussi il faut penser un peu aux patients simulés. Voilà, donc en conclusion, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand même, on a beaucoup souvent d'introductions de présentations qui nous disent que la simulation, elle est issue de l'aviation, que c'est pour améliorer la sécurité, donc soit. Notre simulateur, ça va être, je sais pas moi, un avion simulé. Ok, mais alors cet avion simulé, en fait, quand on y réfléchit, en fait, finalement, il coûte cher. Et puis, en plus, vous ne pouvez pas le piloter comme vous voulez. Hein. Et puis, en plus, vous ne pouvez pas lui faire de crise. Et puis, mais attention, hein, parce que quand vous avez fini votre simulation, attention, votre avion simulé peut aussi se cratcher. Donc tout ça, ça nous permet quand même de nous faire réfléchir à l'utilisation d'un patient simulé. Et moi, j'ai choisi un patient simulé, moi, jamais. Je vous remercie.
Merci beaucoup à nos deux oratrices, Anne, Antonia. Le débat est ouvert, pour ou contre. Nous aurions envie de vous passer la parole, avoir vos réactions à chaud et voir comment vous vous positionnez par rapport à cette méthodologie. Peut-être présentez-vous. Une phrase, mais pour qu'on ait le temps, mais c'est important.
Bonjour, Thomas Bognon, je suis aussi anesthésiste réanimateur et je m'occupe d'un groupe qui s'appelle Communication et Simulation en Pédiatrie. Donc vous imaginez déjà que j'ai un parti pris. Merci aux deux orateurs. Je pense que ce qu'on a démontré un petit peu par les deux topos, finalement, c'est que à chaque problème dans la formation, il y a une ressource pédagogique. Et je pense que c'est toujours difficile, effectivement, les « moi toujours, moi jamais », parce que pour le coup, c'est moi selon ce que j'ai à faire. Et effectivement, moi je fais de la formation en patient avec des acteurs, mais je pense que ce que je fais avec mes acteurs, à mes familles, si je prends un Simman 3G, un Simmom, j'aurais du mal à le faire avec. Donc je pense que le débat, il n'est peut-être pas effectivement sur moi toujours, moi jamais, mais c'est quels sont mes objectifs, et donc à ce moment-là, quelle est ma ressource pédagogique pour le faire. Et à ce moment-là, que ça soit un mannequin ou un patient standardisé, effectivement, dans les deux cas, il y a des contraintes, c'est vrai. Mais voilà, c'est une ressource comme une autre. C'était plus une remarque qu'une question.
Non, mais tout à fait. C'est exactement ça. En fait, on a un peu caricaturé nos deux topos, mais de toute façon, on est tous là, des professionnels de la simulation. On sait bien qu'il y a des avantages et des limites dans chaque outil et qu'il faut les connaître. Et finalement, c'est en partant des objectifs pédagogiques qu'on s'est donné qu'on va choisir l'outil qui est le mieux adapté. Voilà. Mais en fait, sur la partie moi jamais, c'était aussi pour se rendre compte que c'est pas une solution de facilité quand même le patient simulé, que ça demande quand même un gros travail à la fois de formation, de connaître cet outil, que c'est pas un outil clé en main facile parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de choses techniques à connaître, et en fait pas du tout. Quand on connaît pas bien, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile, mais ça demande beaucoup de choses à connaître et à faire pour bien l'utiliser, en fait. Et qui est également une sécurité pour ce patient simulé aussi.
Merci donc pour votre présentation. Donc moi, je suis Emilienne Sner, je suis vice-présidente à l'ANEM, c'est l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Moi, j'ai une question par rapport à la présentation sur les patients simulés. C'est en fait dans quel cadre un peu historique, local, vous avez réussi en fait à implanter cette formation-là dans l'UFR ou au niveau du CHU.
Alors le cadre, en fait, je pense qu'on l'a créé. On est parti d'un besoin, enfin un peu comme toujours dans les formations, on est parti d'un besoin ressenti qui était celui de manque d'entraînement à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Et puis du coup, on a construit la formation autour de ce besoin dans une niche, puisque ça a commencé en pédiatrie. Et puis une fois que ça a commencé en pédiatrie, on a travaillé avec les voisins, nos voisins obstétriciens, parce qu'on était... Et puis après, ça a pris auprès des collègues qui ont pu le poursuivre et le continuer dans les spécialités d'à côté. Ça a pris au niveau, on va dire, universitaire. C'est-à-dire que le doyen s'est saisi de ça en disant « Maintenant, je veux que tous les internes puissent en bénéficier. » Et puis, du coup, je pense que chemin faisant, on a découvert l'outil. On a commencé un peu comme tout le monde à en faire sans en faire. C'est-à-dire qu'on a appris des gens, on a essayé de... Et puis on a réalisé après avoir débuté tout ce qu'il fallait faire autour. Vraiment, mais qu'est-ce que c'est un patient simulé, qu'il en faut, qu'il faut les former, qu'il en faut un pool, etc. Et je pense que c'est secondairement qu'on s'est lancé vraiment dans la constitution d'un pool de patients simulés. Et puis une chose en entraînant une autre. Voilà, maintenant qu'on les a, on va les utiliser pour autre chose. Voilà, mais voilà, partant d'un besoin, j'ai envie de dire, tout simplement... et sans moyens particuliers alloués, sans complexité. J'ai envie de dire que si on veut, on peut. C'est un peu comme le reste. C'est vrai que c'est coûteux, c'est compliqué, c'est cher. C'est une question d'investissement. Mais si on veut, on peut, au même titre que le reste.
Oui.
Bonjour, merci pour vos arguments respectifs. Mathieu Benadour à Rouen, on utilise très peu pour l'instant encore les patients simulés. Qu'est-ce qui vous semble être la moins mauvaise structure pour regrouper vos patients simulés? C'est des associations, prendre des bénévoles au fur et à mesure des rencontres individuelles?
Alors, on en parlera peut-être plus demain. Le cadre, on le définit en fait un peu comme on le souhaite, hein. En fonction des centres et des endroits. On a tous des moyens de recrutement qui sont très différents. On peut en avoir discuté avec les collègues en fonction aussi des pays. On ne recrute pas du tout tous de la même manière. Nous, quand on a réfléchi, passer par des associations, ça va créer un biais. Voilà, il faut le savoir. Une association de patients, alors déjà, c'est des patients. Hein, souvent, ce sont des malades. Donc là, c'est différent. D'accord, ce ne sont pas des personnes en bonne santé. Enfin, peut-être qu'elles le sont, mais en tout cas, ce sont des malades. Des gens dans des associations, c'est pareil. Il y a aussi un biais peut-être là. On a voulu, nous, quand on l'a fait, essayer d'avoir des gens tout venant. On a utilisé un moyen simple, c'est qu'on a fait une proposition sur Internet. Enfin, on a essayé d'envoyer, de faire diffuser un message de « Vous êtes intéressé, portez votre candidature. » Et puis, après, bien sûr, quand on fait ça, il y a un screening à faire derrière, si on veut pas... y a quand même des critères à respecter, on ne peut pas prendre n'importe qui. Voilà, nous c'était un choix. Après on peut cibler les endroits où on envoie ses demandes si on utilise Internet. On peut utiliser d'autres moyens de regroupement. Enfin voilà, on a des collègues qui travaillent avec des troupes d'acteurs particulières. Il y en a qui utilisent des gens qui interviennent à l'hôpital, etc. Il y en a qui utilisent du personnel hospitalier aussi, uniquement. Nous, on voulait se séparer de certains biais. Je pense que quand on utilise du personnel hospitalier, il y a des biais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans nos patients simulés ou standardisés, mais ils ont une certaine manière de penser, un certain vécu aussi, et ils en sont imprégnés, mais comme tous les autres. Donc le plus on sera large, le plus on aura un panel de types de patients.
Il n'y a pas encore de catalogue pour commander son patient simulé.
C'est l'idée, c'est de constituer un pool et que les gens puissent piocher. Ouais.
Si j'ose ajouter quelque chose, en effet, par rapport au recrutement des patients simulés, c'est vrai que c'est très centre-dépendant, puis aussi environnement-dépendant. Moi, j'ai des collègues qui sont à l'endroit New York, alors là, c'est sûr que d'avoir des acteurs professionnels qui ont du temps parce qu'ils n'ont pas d'autres contrats, c'est très facile à trouver. Après, il y a aussi d'autres environnements où on voit qu'il y a des historiques différents de comment s'est formé même le programme. Donc en tout cas, d'avoir un pool stabilisé de personnes recrutées, de patients simulés, ça c'est essentiel. Le fait de pouvoir les impliquer aussi dans différents contextes, de pathologies à jouer, c'est souvent intéressant et les patients contribuent de cette manière-là, donc vraiment avec un panel large. Moi, je dois dire, en Suisse, ce qui marche très bien, mais je ne sais pas si vous avez ça en France, c'est des gens très motivés, et puis souvent, en tout cas pour la formation, je dirais pré-grade, où on a besoin de patients plutôt âgés, parce que c'est là où se développe un certain nombre de problématiques, et bien on travaille avec les universités du troisième âge. Des personnes actives, qui ont envie, et je pense qu'il est important, c'est de savoir quel est le pool aussi que vous voulez avoir. Nous, on voulait vraiment des personnes qui puissent être actives, libres en journée, qui puissent quelque part créer une communauté et se fidéliser au programme. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut penser, parce qu'un patient simulé bien formé, c'est pas sur une simulation, c'est le fait d'être impliqué dans différents contextes, dans différents types de formations, et alors ils affûtent, comme nous, en tant que formateurs, parce que pour moi, un patient simulé, c'est un co-facilitateur, et je pense que ça s'apprend. C'est aussi des compétences pédagogiques d'intégration dans un contexte qui s'apprennent. Voilà. Quelques pistes, mais j'ai d'autres collègues, comme l'a aussi mentionné, je pense, au plus de toutes les pistes que Anne apportait. C'est certains, ils posent des affiches dans les crèches, dans les églises, voilà. Donc ça peut être vraiment très très large. Mais je pense que le meilleur moyen, c'est le bouche à oreille. En tout cas, moi, c'est souvent comme ça que j'ai recruté les meilleurs patients simulés.
Oui, bien. Je voulais aussi rebondir. Donc moi, je suis Nathalie Jolin, je suis en formation initiale infirmière, où justement, et donc un IFSI qui est rattaché en fait à un centre hospitalier psychiatrique. Donc on est aussi beaucoup à travailler la simulation sur tout ce qui est l'aspect communication, relation. Et ça, c'est vrai que le patient simulé peut avoir sa plus-value. Et c'est vrai que j'avais deux questions un petit peu, enfin je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit par rapport donc, à ce patient simulé. Donc j'avais deux questions, c'était un sur le choix, donc un peu, on en a un peu débattu, sur le choix du patient simulé. Donc nous, par notre expérience, nous faisons appel à des professionnels, en fait infirmiers, peut-être de l'université du troisième âge, en tous les cas la retraite, mais en tous les cas qui ont eu des expériences professionnelles par rapport aux patients qu'on veut lui faire jouer forcément, c'est-à-dire que jouer un patient autiste, ça ne s'invente pas, et quand on a été pendant 15 ans à travailler auprès de patients autistes, eh bien c'est peut-être celui-ci qui peut être le plus aisé pour pouvoir le jouer, qu'une formation peut ne pas suffire pour former le patient simulé. Donc ça, c'était une première chose. Et l'autre chose, je voulais rebondir sur ce que vous disiez concernant les pairs. Vous avez parlé donc que le patient simulé pouvait être les pères. J'aurais souhaité un petit peu avoir votre regard là-dessus, parce que nous, on se positionne en disant jamais l'étudiant ne sera l'acteur de ses pairs qui vont, eux, jouer. Alors, mais peut-être que je n'ai pas bien compris votre propos.
Non, je suis passée un petit peu vite, effectivement. Par les pairs, j'entendais les nôtres, donc c'est un peu ce que vous faites quand vous utilisez, effectivement, peut-être des collègues ou des anciens collègues. Nous, on n'utilise pas d'étudiants, effectivement, entre eux. Je sais qu'il y en a qui le font. Alors, les résultats sont parfois mitigés. Enfin, pour les, voilà, le retour des étudiants, en tout cas les nôtres qui ont été faire ces formations à côté, ils m'ont dit qu'ils avaient eu du mal avec le réalisme d'avoir le copain à la place. Après, c'est pas inintéressant, il y en a qui le font. Moi, je parlais des pairs, nos pairs. Si on utilise d'autres médecins pour jouer les patients simulés, il n'y a pas de souci. Mais ils sont médecins. Et ça, c'est quelque part gravé en eux. Donc, soit c'est pour les utiliser pour ce qu'ils sont, et c'est ce que vous faites. Vous les utilisez parce qu'ils ont une compétence et une connaissance particulière de vos patients, et donc ça donne une plus-value. Et je pense que c'est important, et nous, on a fait ce type d'exercice en utilisant des obstétriciens pour jouer les parents face à des néonates et vice-versa. Mais on avait en tête que chacun y allait avec son, j'avais dit, ses idées reçues. Et on s'en est servi, et justement, c'était presque l'objectif. On a travaillé ça au débriefing. Mais il ne faut pas espérer, voilà, si vous mettez le PUPH chef de service en face des étudiants en lui disant « mais vous inquiétez pas, là aujourd'hui c'est le papa ». Non, enfin, honnêtement, pour l'étudiant ça ne marche pas. Il y a quelque part dans sa tête, c'est imprégné, c'est gravé, et peut-être de l'autre côté un petit peu aussi. Enfin, voilà.
Et les compétences acquises du professionnel qui était le patient simulé permettaient aussi de s'ajuster en fonction de la réponse que les étudiants pouvaient avoir ou ne pas avoir. Et ça, on trouvait aussi que c'était permettre à l'étudiant d'être en situation d'apprentissage et non pas en situation d'échec face à la simulation. Et ça, c'était une plus-value qui, je pense, était vraiment dans le respect donc, de l'apprentissage de l'étudiant. Voilà, c'était juste mon retour d'expérience.
Ouais. Pour compléter, je vois pour nous, on fait pour les étudiants en médecine, quand ils commencent à apprendre des consultations un peu standards, il y a aussi des consultations un peu d'annonce, mais ils sont vraiment niveau étudiant en médecine. Pour le coup, on n'a pas d'acteur professionnel ou de patient simulé professionnel. Ils ont un petit script et ils jouent le rôle du patient et en fait il suffit de leur expliquer au début c'est un peu comme n'importe quel pré-briefing où il y a un contrat qui doit se faire où chacun doit jouer un petit peu son rôle. Et d'un côté, c'est aussi intéressant aussi d'avoir leur point de vue où ils se rendent compte quand ils sont en face de leur collègue, effectivement, mais qui fait le médecin. Et eux, ils ont le rôle, ils font le rôle du patient et de se rendre compte quand même de comment amener, de comment faire du relationnel qui s'installe, etc. Et donc, à ce niveau-là, en tout cas, en formation initiale, ça passe très bien sur ce type de formation.
Juste pour ajouter une toute petite chose à ce que vous disiez, il faut juste avoir en tête, mais je pense qu'après on peut tout utiliser, vraiment ça dépend des objectifs. Quand on fait ça, il y a quand même une petite relation triangulaire, c'est que là, quand un soignant donne le retour, il donne le retour de ce que le soignant pense, de ce que le patient pense. Que je veux dire. Il donne quand il retourne. Donc il y a un retour positif avec l'étudiant, ça c'est certain, mais n'empêche qu'il voit ça avec ses yeux de soignant. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, il y a un filtre, mais qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il faut en avoir conscience, il y a un filtre.
Moi, je vous remercie beaucoup de cette question. Je fais le lien aussi avec la première intervention. En fonction des objectifs pédagogiques, il y a aussi un choix de patient qui se fait. La naïveté et la fraîcheur d'un patient non professionnel de santé, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans le retour et dans la partie feedback. Si on travaille avec des vrais professionnels, enfin avec des professionnels de la santé, la question est de savoir quelles capacités ils ont à prendre du recul par rapport aussi à leur propre expérience ou ce qu'ils attendent de l'apprenant. Donc les enjeux, il y a des pour, il y a des contre, on est là pour en discuter. Mais je pense que c'est vraiment d'être conscient de ce qu'on est en train de mettre en place et puis de l'impact pour l'étudiant, puisqu'on est au service de la formation. C'est un outil, bon, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, parce qu'on parle de l'humain, mais du coup, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction de ma situation, en fonction du pool de patients que j'ai à disposition, et les enjeux de formation vont changer. Mais cette naïveté et cette fraîcheur, elle est essentielle pour pouvoir parler d'un programme de patients simulés. Je passe la parole au monsieur. Il y aura encore une question après. Et puis après, on devra clore ce débat.
Merci. Merci à vous deux. C'est intéressant, le jeu de rôle que vous avez eu. Enfin, surtout la deuxième, je pense que ce n'était pas évident.
J'ai un peu forcé les traits. Hein.
Donc moi, je suis Pascal Jarnot. Je suis médecin au CHU de Rennes. Et je travaille en simulation beaucoup justement sur tout ce qui est non technique. Et voilà, sur tous les aspects de qualité, gestion des risques, éducation thérapeutique. Donc on rentre effectivement dedans là maintenant depuis 3-4 ans sur le patient standardisé ou le patient simulé. Nous on est parti vraiment... Alors je voulais juste réagir sur ce que vous avez dit, parce que moi j'ai... L'idée de ne pas utiliser des professionnels, ben, tout ce que vous avez dit c'est vrai, mais on m'a donné des expériences là, récentes où ça m'a interpellé. C'est effectivement de mettre le professionnel dans la position du patient. En fait, ça peut être un objectif... rien que le fait de le faire, on apprend beaucoup, en fait. Même en annonce, et là, on m'a raconté une expérience en balnéo, où le fait que ça soit un professionnel qui joue le patient dans le bain, alors, c'était, bon, paraît-il, c'était extraordinaire. Donc voilà, moi, du coup, je suis un peu revenu sur ce que je pensais aussi, mais voilà, ça dépend des objectifs pédagogiques. Non, moi, la question que je voulais vous poser, c'était vraiment ce que vous disiez sur les poules, parce que nous, on est vraiment partis sur des acteurs, parce que... Pour le point, à mon avis, essentiel sur le patient simulé, si on va vers la haute fidélité, c'est la gestion des émotions. Et donc la gestion des émotions du patient, et puis évidemment de nous, professionnels. Et là, pour moi, en utilisant les acteurs, on est vraiment en haut, parce que eux, c'est leur boulot, c'est de produire des émotions. Et si on va chercher des professionnels qui font un peu de théâtre, ça peut être pas mal, mais ils ont des problèmes ils ont des problèmes pour prendre du recul. Si on prend des retraités, ça me pose question ce que vous disiez. Ça me pose question, hein, c'est vraiment un pose question. je me dis, ça peut être une piste, mais voilà, c'est sur cet aspect gestion des émotions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez fait aussi avec des acteurs? C'est vrai que nous, comme on a un peu de sous, on se dit, on est encore sur le fait qu'on peut les payer, mais effectivement, ça pose des questions pour les payer. Enfin, voilà, ça m'a interpellé, mais j'avais l'impression qu'acteurs, on était vraiment sur cet aspect haute fidélité. Bon, je ne sais pas si c'est très clair. Mais...
Si, très. Bon. C'est très clair parce que je pense que c'est ce qu'on a pensé au début. Donc, en fait, ça me parle beaucoup. On a commencé avec des bénévoles, et puis on a eu la sensation que ce n'était pas... La qualité de la prestation ne nous paraissait pas parfaite. Donc, on est passé à des professionnels. Ce qu'on s'est rendu compte après, qui était, alors pour le coup, effectivement, je vous rejoins complètement, hein, avec les acteurs pros, c'était d'un niveau super, mais bon, c'est aussi super coûteux. La chose, c'est qu'on s'est surtout rendu compte qu'en fait, on les avait formés. C'était ça la grosse différence entre les deux. C'est qu'en fait, la première fois, on pensait que c'était des acteurs et qu'ils allaient savoir. La deuxième fois, on pensait qu'ils allaient savoir, mais en fait, ils ont passé beaucoup de temps avec les psychologues avec qui on fait des binômes. Et puis, à chaque fois, ils les formaient, insidieusement, à la simulation, au scénario, enfin, un peu à tout. Et puis, du coup, quand on a pris les bénévoles, on s'est dit, mais oui, est-ce qu'ils vont être aussi bons? Est-ce que... Honnêtement, on a été bluffés par les émotions qu'ils ont été capables de générer. Parce qu'en fait, celles qu'on veut générer chez le professionnel, elles vont venir de celles que le patient simulé renvoie. Et nos bénévoles formés, avec pas grand-chose, ils ont été capables eux-mêmes de générer des émotions qui nous ont bluffés, sincèrement, et qui, du coup, mis en face pour les professionnels, ça marche. Quoi. Donc voilà, donc, je dirais que... Mais je vous comprends complètement parce qu'on a eu cette interrogation, ce doute, et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase, et je pense qu'on en reparlera. En fait, ce qui compte, c'est qu'il faut les former et les entraîner. Voilà, peut-être pas forcément de manière non plus très longue, mais ça permet vraiment d'obtenir quelque chose. Et nous, maintenant, on y croit, même sur les situations émotionnelles importantes. Quoi.
Vous aurez l'occasion cet après-midi avec Yann Yoz de Retence de pouvoir voir aussi l'utilisation des échelles émotions qui peuvent être utilisées avec des amateurs de façon assez pratique et d'obtenir vraiment d'excellents résultats.
Alors justement, je vais faire un petit aparté sur ça. J'en profite pour dire que malheureusement, Yann Yoz Retence ne sera pas là cet après-midi puisqu'il a été coincé par les grèves et que du coup... il n'a pas pu venir jusqu'ici, donc il y aura une petite modification du programme de l'après-midi. Et les deux orateurs suivants auront un peu plus de temps, donc peut-être la prochaine fois. On est un peu désolé.
Par ailleurs, je crois qu'il faut pouvoir dire qu'il y a le pour et les contre, mais ces deux techniques sont tout à fait complémentaires. Ça peut être complémentaire de façon séquentielle, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une espèce de coupure et puis on passe sur un mannequin haute fidélité, par exemple, ou un mannequin procédural. Ou d'un autre côté, la simulation hybride a fait de tels progrès qu'on peut vraiment mixer ces deux techniques. Et donc, il n'y a pas d'antinomie de nouveau. Il faut revenir à ces objectifs.
Oui, nous, on a une journée de formation où, en fonction de la journée, on passe d'un mannequin haute fidélité adulte, puis mannequin haute fidélité enfant. Puis l'après-midi, c'est sur, avec un jeu de rôle et avec un patient simulé. Donc, ça dépend.
En tout cas, un grand merci autant à vous, participants, à nos deux oratrices qui ont su relever les différents défis, autant pédagogiques, on a pu déjà amener un certain nombre de choses par rapport à cette pratique et cette contribution des patients simulés plutôt que utilisation, j'y tiens. Et on a vu aussi l'impact et les enjeux au niveau de l'encadrement, de la formation, on y reviendra quand je vous présenterai, puisque c'était ma mission là pour maintenant, c'est de vous présenter dans les grandes lignes aussi les standards de pratique et les réflexions actuelles à l'Association des éducateurs de patients simulés. Donc, merci beaucoup ces dames.